dans ta parole encore pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, je vous invite à prendre Jacques, l'épître de Jacques. On avance tout doucement. Alors, on ne fait pas exprès hein, d'avancer doucement, mais des fois, il y a beaucoup de temps entre une étude et une autre. On en est au chapitre 4. On va lire les versets 1 au verset 10. Jacques chapitre 4, verset 1, verset 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Voilà, jusqu'ici la lecture. Le chapitre 4, on avait dit, c'est un chapitre qui traite de l'esprit, on pourrait dire mondain. Si on regarde le verset 4, il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Donc il s'adresse, il dit « On ne peut pas être sur les deux. On ne peut pas vouloir être à la fois ami de Dieu et ami du monde. Ça ne marche pas. » Donc après avoir décrit un peu le mécanisme des passions intérieures, ce qu'on a vu au verset 1, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos corps, dans vos membres? Eh bien, Jacques avait décrit aussi, on avait vu les causes fondamentales de ces passions. Et maintenant, il va faire un peu un appel aux lecteurs ici. Hein. Il décrit un certain nombre de choses à partir du verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? Il explique la provenance de ces choses. Il en donne le caractère d'inimitié hein, contre Dieu. Il traduit ça même par le mot adultère. Et puis, à partir du verset 7, il va donner des exhortations. C'est des impératifs. Il y a une série de, jusqu'au verset 10, je crois, de 10 impératifs qu'il donne ici. On pourrait dire qu'il pourrait constituer un appel un peu à la repentance ici. Donc, mais comment est-ce qu'il va le faire? Le verset 5, si vous regardez le verset 5, il dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, verset 6, donc « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le verset 5, on pourrait dire, exprime l'exigence de Dieu à l'égard de ses enfants. Je crois qu'on avait résumé cela comme ça. Et le sens, ce sens-là peut-être, je pense, retenu à cause du contraste qui est établi avec le verset 6. Vous voyez, il dit au verset 6, et il accorde au contraire une grâce plus excellente. On pourrait dire que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il fait habiter en nous. Il est extrêmement exigeant. Vous ne pouvez pas à la fois aimer Dieu et aimer le monde. Dieu veut tout, l'être tout entier, la personne tout entière. Et ce sont des exigences extrêmement élevées dans tout ce que Dieu demande de ses enfants. Il ne demande pas d'être comme vous pouvez. Hein. Jésus, il a dit quoi? Il a dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et donc, ça veut dire que c'est ça que, qui est la norme de Dieu pour ses enfants. Et il dit, mais si telle est la norme, eh bien, il dit, mais en même temps, il accorde une grâce encore plus excellente à ses enfants. Donc, ce que Dieu, quelque part, on pourrait dire que ce que Dieu exige pour ses enfants, eh bien, il accorde la grâce qui leur permet d'avancer dans ce chemin-là. Ce que Dieu exige comme manifestation de sainteté dans la vie de ses enfants, il leur accorde la grâce de vivre et de marcher de cette manière-là. Il dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc le Dieu qui est un feu dévorant, hein, ici, et qui exige beaucoup de ses enfants, est aussi un Dieu miséricordieux qui accorde vraiment l'excellente grâce. Et donc c'est un peu ce qu'on pourrait voir quand on pense au verset, chapitre 1, vous rappelez chapitre 1, verset 16, regardez chapitre 1, verset 16, ce que Jacques avait dit. Il avait dit, ici, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On avait étudié cela. On avait vu comment Dieu nous a engendrés selon la volonté par sa parole. Il dit qu'on peut pas dire que lorsqu'on est tenté, c'est Dieu qui me tente. Il dit, Dieu est un Dieu de grâce et tout don parfait descendent du Père des Lumières. Et je crois que c'est un petit peu la même pensée ici, hein. Il dit que Dieu accorde une grâce particulière, une grâce excellente. Il utilise quasiment la même expression ici, hein. Une grâce encore plus excellente pour que ses enfants puissent vivre ses exigences ces exigences spirituelles, exigences dans leur vie chrétienne. Donc Jacques va révéler ici une vérité sur la manière d'agir de Dieu. Regardez au verset 6, il dit verset 5, Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et c'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce ici aux humbles. Donc Jacques révèle la manière d'agir de Dieu à l'égard de deux types de personnes. Quels sont ces deux types de personnes? Très facile à voir ici. D'un côté les orgueilleux et de l'autre côté les humbles. C'est comme s'il y avait deux catégories de personnes, les orgueilleux et puis les humbles. Et puis deuxièmement, il y a l'attitude de Dieu à l'égard, on pourrait dire, de ces deux catégories de deux sortes de personnes. Donc, dans un cas, il oppose une résistance, et dans l'autre cas, il fait grâce. Et Jacques dit, l'Écriture dit cela, c'est pour ça que Dieu accorde une grâce plus excellente à ceux qu'il sauve et ceux dont il exige une vie avec un très haut niveau dans la marche spirituelle. Alors, il oppose une résistance aux orgueilleux. Le terme là pour la résistance, c'est un terme qui veut dire se ranger en bataille contre quelqu'un. Donc c'est comme s'il disait Dieu se range prêt au combat contre ceux qui sont orgueilleux. Il est prêt à les combattre. Il est comme une armée qui est déjà là prête à affronter. Donc imaginez, chers frères et sœurs, Dieu prêt au combat contre un homme. Quelle chance cet homme a-t-il? Aucune. Qui c'est qui peut tenir contre lui? Vous rappelez ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans Corinthiens chapitre 10, lorsqu'il s'associait dans des banquets, qu'il mangeait des viandes sacrifiées aux idoles, etc. Et il disait, voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? Et puis il ajoute, êtes-vous plus fort que lui? C'est-à-dire, vous imaginez-vous pouvoir affronter Dieu dans sa jalousie? Et c'est un petit peu la même chose ici. Il dit, la Bible dit que Dieu s'oppose, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ce que Jacques cite ici, ce qu'il dit ici, c'est une citation de Proverbes, chapitre 3, verset 34, où il dit effectivement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce ici aux humbles. Donc, premièrement, il oppose une résistance, il est prêt à affronter, il résiste. Et deuxièmement, il dit, il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et donc, cette attitude, je crois, de Dieu est révélée vraiment plusieurs fois dans l'Écriture. C'est pas juste ici, que cette attitude de Dieu à l'égard d'un côté des orgueilleux et de l'autre côté des hommes est révélée. Par exemple, Psaume chapitre 18, verset 28 dit « Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les regards hautains. » Donc on a là un contraste entre les humbles et puis les orgueilleux. Ésaïe 57, verset 15 dit par exemple « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Cette disposition de Dieu à l'égard de ceux qui sont humbles, d'accord, mais d'une humilité qui vient, bien sûr, de lui-même, de Christ même, et puis sa détermination aussi à résister à ceux qui sont orgueilleux. Marie, rappelez-vous dans son cantique, elle avait souligné aussi ce caractère de Dieu. Elle avait dit, dans Luc chapitre 1, verset 52, « Il a renversé les puissants de leur trône. » Elle parle des orgueilleux. « Et il a élevé les humbles. » Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Jacques, donc, ici, il fait de cette vérité, on pourrait dire, le cadre de cette grâce dont il parle au début du verset 6, quand il dit « Dieu accorde une grâce excellente ». Il dit que cette grâce, elle se manifeste par le fait que cela vient du caractère même de Dieu qui résiste aux orgueilleux et qui fait grâce aux humbles. Et ce qu'il avait décrit des versets 1 jusqu'au verset 5, c'était une attitude quand même vraiment orgueilleuse. Il parlait d'esprit de dispute, de lutte, de querelle, tout ce qui décrit vraiment le caractère orgueilleux de l'homme. Et donc il dit, voilà le cadre dans lequel cette grâce est accordée. Eh bien, c'est parce que Dieu, dans son caractère, eh bien, résiste à ceux qui sont orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Et donc verset 7 ici, il donne maintenant quelles sont donc les responsabilités. C'est-à-dire que, en fait, il dit que la vérité qui concerne Dieu qu'il vient d'énoncer ici, c'est-à-dire le proverbe 33 verset 34, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes, constitue un cadre pour la manifestation de cette grâce dont il vient de parler, mais aussi ça constitue un motif pour toutes les exhortations qui viennent derrière. Parce qu'il dit, regardez verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Il dit, « Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux, donc soumettez-vous à Dieu. » Autrement dit, ce que Dieu est dans son caractère, la manifestation de son caractère, eh bien, doit être un motif pour incliner le cœur, les attitudes, les pensées dans une certaine direction. Et puisque Dieu agit ainsi, on pourrait dire, à l'égard des hommes, voici donc, il dit, comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous conduire à son égard, quelles sont vos responsabilités. Et Pierre, l'apôtre Pierre, avait utilisé ce même proverbe dans le même sens. Regardez en 1 Pierre 5, versets 5 et 6, il illustre cela quand il parle aux jeunes, il parle aux l'attitude des jeunes à l'égard des anciens, quand il parle du travail des anciens avec l'Église, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, donc 1 Pierre 5, verset 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Ça, c'est l'exhortation. Mais regardez quel est le fondement de l'exhortation. « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et il revient à l'exhortation, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est exactement, on pourrait presque dire que c'est le parallèle de ce que Jacques dit ici. C'est pratiquement la même structure, vous voyez. Donc il dit, « Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. » Autrement dit, si vous ne le faites pas, vous allez trouver en face de vous la résistance de Dieu. Il dit, mais si vous le faites, si vous agissez ainsi, eh bien vous allez trouver la grâce que Dieu vous fera. Dieu va vous accorder sa grâce. Donc quand on est prêt à s'humilier comme la parole de Dieu nous le commande, on est sûr de connaître la grâce, d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Donc on voit ici bien encore comment l'apôtre Pierre utilise ce proverbe 3:34, le fait que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, comme motif de la soumission à Dieu, mais aussi cette soumission, il dit, se manifeste dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. Ils doivent se manifester par des rapports d'humilité que nous entretenons les uns avec les autres. Donc puisque Dieu fait grâce aux humbles, il faut donc se soumettre à lui. Il faut manifester à son égard de l'humilité. Donc l'idée, si on veut dire majeure de toute cette section ici, c'est vraiment l'humilité et la soumission. Donc d'abord, c'est l'exposition des passions qu'il y a dans les cœurs, mais le remède à cela, on pourrait dire, le remède à tout cela, c'est la soumission et l'humilité. Compte tenu du fait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce ici aux humbles. Donc l'attitude d'orgueil est celle qui a, vous vous rappelez, prévalu déjà lorsque Lucifer, la Bible dit dans Ésaïe 14 et puis Ézéchiel 28, lorsque Lucifer a voulu s'élever, d'accord, à cause de sa beauté, son orgueil, eh bien il a été précipité. Mais l'attitude d'orgueil est ce qui a prévalu aussi dans la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dieu a-t-il réellement dit ceci, mais si vous mangez du fruit de l'arbre, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc le désir d'être à plus que ce que Dieu a prévu pour eux. C'est ça qui a prévalu dans le jardin. Donc on pourrait dire que c'est vraiment l'orgueil dans le cœur qui a été la cause ici de la chute. Donc se soumettre à Dieu consiste donc à se soumettre à soumettre notre volonté à la sienne, mais aussi c'est chercher à obéir en toute chose à ce que Dieu nous commande, c'est accepter ce qu'il nous dit de nous-mêmes, c'est accepter ce qu'il dit de lui dans sa parole, c'est vraiment accepter d'être pleinement sous son contrôle. Et donc, puisque Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, la seule chose que nous avons à faire, c'est déjà qu'ici, eh bien donc, soumettez-vous à Dieu. Mais comment cette soumission à Dieu se manifeste-t-elle? Je crois que les autres exhortations qu'il donne après, chapitre 4, verset 7, si vous regardez, soumettez-vous donc à Dieu. Puis après, il donne un certain nombre de choses. Je crois que tout cela vient clarifier ce que cette soumission veut dire. Ce sont les implications de cette soumission à Dieu. Et puis il termine avec le verset 10, avec la même pensée, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur », qui est quasiment la même pensée ici, « et il vous élèvera ». Donc on est bien d'accord que le thème ici, c'est bien celui de la soumission et de l'humilité. Et les versets 8... Versets 7 jusqu'au verset 10 sont les implications de cette soumission à Dieu. Donc, premièrement, ici, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, et ensuite, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, comment se manifeste cette soumission à Dieu? On pourrait dire qu'elle implique la résistance au diable. Se soumettre à Dieu, c'est résister au diable. D'accord? Si Adam et Ève s'étaient soumis à Dieu, ils auraient dû résister au diable dans le jardin d'Éden. C'est parce qu'ils n'ont pas résisté, qu'ils ont écouté et qu'ils n'ont pas été soumis à la parole que Dieu avait prononcée, au commandement que Dieu avait donné, et bien que la chute a eu lieu. Donc la soumission à Dieu, bien sûr, rend possible la résistance au diable. S'ils s'étaient soumis à Dieu en disant « Non, Dieu a dit cela et nous allons obéir », et la soumission protège quelque part. La soumission à Dieu aurait permis de résister au diable. Mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, eh bien, ils sont tombés dans le piège. L'apôtre Pierre dit, dans le même chapitre que nous avons lu tout à l'heure, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Puis il dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Et comment est-ce qu'on résiste avec une foi ferme? C'est pas qu'on est là et puis on se concentre sur soi-même. Non, on pense aux vérités de la parole de Dieu. Si il rôde, cherchant qui il dévora, il va chercher à approcher avec différents angles d'attaque. Hein? Et donc il faut pas croire qu'à chaque fois ce sera les gros sabots, hein, les deux cornes qui vont apparaître, la fourche à la main, comme on dessine parfois. Non, ça peut être de manière extrêmement subtile. Et donc il faut être vigilant, il faut être soumis à la parole de Dieu pour et proche de Dieu pour pouvoir résister à cela. Et la méthode de l'ennemi, vous savez, n'a pas du tout changé. Elle consiste toujours à saper la confiance en Dieu et dans sa parole. Et si on écoute suffisamment, aujourd'hui on entend toujours la même voix qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et combien de fois? Parfois, on entend des gens qui disent « Oui, mais la Bible ne dit pas ça. Hein. » C'est pas ça que Dieu veut dire là-bas. Hein. On utilise ça pour pouvoir justifier ce que l'on fait parfois. Hein. Bien, c'est une manière d'entendre « Dieu a-t-il réellement dit ?» Au lieu de se soumettre pleinement à ce qui est révélé dans la parole de Dieu, on essaye de dire que peut-être que le texte ne dit pas exactement ce qu'il est en train de dire ou ce que l'on comprend naturellement. C'est une manière d'écouter cette voix qui dit « N'est-ce pas, Dieu a-t-il réellement dit ?» Et donc, aujourd'hui encore, hein, le diable attaque de cette manière-là. C'est ainsi qu'il a fait avec Jésus en le tentant. Hein. Il l'a mis en doute, la parole de Dieu. Il a tenté avec la parole. « Il est écrit », a-t-il dit plusieurs fois, n'est-ce pas ?« Il est écrit, si, voilà, tu te jettes, et bien il enverra des anges, etc. » Et puis, qu'est-ce que Jésus a fait ? Mais il s'est soumis au Père et à la parole de Dieu. Il a dit, à un moment donné, vous vous rappelez, il a dit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » C'est une soumission à Dieu et à sa parole. Et je crois qu'on a là l'exemple, si vous voulez, on pourrait dire l'illustration de ce que Jacques dit ici. Vous vous soumettez à Dieu en résistant au diable. Quand on se soumet à Dieu, cela implique une résistance au diable. Et on est plus sensible parce qu'on connaît cette parole de Dieu et on peut résister au diable. Deuxième implication qu'on pourrait voir ici, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Comment on pourrait la résumer, cette implication? La première, c'était la résistance au diable. Celle-ci, comment vous l'auriez résumée? Il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Comment on pourrait appeler ça? Ça s'appelle comment? Communion, c'est un très bon... On pourrait dire comme ça. Hein. J'ai trouvé des gens qui le disaient comme ça. Moi, je le dis autrement, mais... Connexion, je pensais à proximité. Une proximité, mais communion c'est plus fort encore, hein. Une proximité avec Dieu. La soumission implique donc une proximité ou une communion avec Dieu. Comment peut-on concrètement s'approcher de Dieu? Est-ce que vous avez des idées? Comment on peut s'approcher de Dieu? Par sa parole, par la prière? La mise en pratique. Alors, si vous voulez, je vais me placer au tout début. Hein. Est-ce qu'un homme pécheur peut s'approcher de Dieu, du Dieu trois fois saint? Il faut qu'il se repente, oui. J'ai entendu d'autres réponses. Il faut qu'il passe par Jésus-Christ. Hein. Et quand il est question de s'approcher de Dieu, je crois que cette parole peut s'adresser à la fois aux chrétiens et aux non-chrétiens. Même en tant que chrétien, c'est par Christ qu'on s'approche de Dieu. On a besoin d'un prêtre pour s'approcher de Dieu. On ne peut pas s'approcher de nous-mêmes, par nous-mêmes, de Dieu. C'est par Christ qu'on s'approche de Dieu. Et la parole nous le dit très clairement, par exemple. Hein, Dieu donne le moyen par lequel on peut s'approcher de lui. Et donc, celui qui est soumis à Dieu s'approche de Dieu par le moyen prévu par Dieu, pas par un autre. Il y a des gens qui disent « Ah, tous les chemins mènent à Dieu. Peu importe comment vous croyez, etc. » Nous, on fait comme ça, et après tout, il y a un seul Dieu. Non, Dieu a dit par quel moyen on peut s'approcher de lui. Et l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, je lis, hein. Il dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Vous voyez encore, là, il y a le moyen. Le moyen, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire le sacrifice de Christ accompli à la croix du calvaire. Donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, quelle est l'exhortation qui est donnée? Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les yeux purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, qu'est-ce que j'ai dit? Le corps lavé d'une eau pure. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps, lavé d'une eau pure. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 19 et jusqu'à verset 22. Donc, vous voyez ici, là, le moyen pour s'approcher de lui, puisque le sacrifice a eu lieu, eh bien, nous avons au moyen du sang de Christ la possibilité de nous approcher de Dieu. L'apôtre Paul disait la même chose aux Éphésiens quand il dit que par Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, ceux qui sont à Christ reçoivent l'Esprit de Christ, et par Christ, grâce à l'Esprit de Christ, ils ont accès auprès du Père. Donc, il n'y a pas d'autre moyen pour venir à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est accepter le moyen, le chemin qu'il donne pour pouvoir avoir accès à lui. Hébreux 4, 16 nous dit que nous pouvons nous approcher aussi tout au long de notre vie. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, quand nous avons des besoins, qu'est-ce que nous devons faire? Se soumettre à Dieu, c'est de ne pas courir tous les systèmes administratifs qui sont mis en place. C'est d'abord de venir à notre Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est de dire, si lui nous guide ici ou là, c'est une chose. Mais c'est d'abord à lui que je dois, de lui que je dois m'approcher. C'est l'invitation qu'il fait ici. Il dit, pour nos besoins, nous devons venir au trône de la grâce et pour trouver grâce auprès de lui. Et Jacques dit ici que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je crois que si telle est la disposition de cœur, eh bien, Dieu se laisse aussi approcher. Si on vient en Christ et on vient dans l'obéissance, et la Bible le dit, il dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Il n'est pas loin, il est près, proche, il se laisse approcher, il se laisse trouver par tous ceux qui l'invoquent. Donc c'est une attitude de soumission que d'obéir aussi à cette injonction, et je crois qu'on peut dire que la soumission à Dieu se manifeste ou implique aussi cette proximité, cette communion, comme on a dit, avec Dieu. Et puis aussi, il y a le verset suivant qui dit, ici, « Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Alors ça, c'est une autre implication qu'on pourrait appeler la pureté, c'est facile à voir ici, la pureté des actes et du cœur. Être soumis à Dieu implique aussi la pureté des actes et la pureté du cœur. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, aussi hommes irrésolus. Donc on comprend bien ce que ça veut dire le mot pécheur, mais le mot irrésolu ici, décrit celui qui a un esprit double, une âme ici double. Donc il fait allusion à celui qui veut à la fois une chose et son contraire. Comme il avait dit au verset 4, vous vous rappelez, il dit si quelqu'un veut être ami du monde, il ne peut pas être en même temps ami de Dieu. Celui qui veut être ami du monde, il se fait, par définition même, ennemi de Dieu. On ne peut pas avoir les deux. Et il y a des gens qui ont cet esprit double. Il dit, on ne peut pas avoir, il faut cet esprit double. Donc il dit, homme irrésolu, homme à l'esprit double, eh bien, nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. Et on sait comment, par exemple, du temps des Juifs, de Jésus, les Juifs étaient fiers de leur performance extérieure. C'était extraordinaire, extérieurement, c'était vraiment extraordinaire ce qu'ils faisaient. Et leur rigueur dans l'observation de tous les rites de la loi. Mais Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, vous êtes des tombes blanchies, d'accord? Vous nettoyez l'extérieur, mais l'intérieur est plein de rapines. Donc il est en train de dire, les mains sont peut-être nettoyées, mais le cœur n'est pas purifié. Et donc, il faut les deux. Il faut à la fois les mains lavées, les mains nettoyées, mais aussi le cœur purifié. Et c'est les deux qui vont ensemble. Et être soumis à Dieu, c'est rechercher la pureté de cœur et dans les attitudes aussi. De même, on ne peut pas dire que je suis pur dans mon cœur, pas pur dans mes mains, dans mes actes. Quand le cœur est pur, les actes le sont aussi. Mais on peut s'efforcer d'avoir des actes, de bons actes, avec un cœur qui n'est pas purifié devant Dieu. Et le psaume 24 dit ceci, il dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera en son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Vous voyez encore à la fois là, ici, il y a les deux, hein, les mains innocentes et le cœur pur. Et puis, le suivant ici, verset 9, il dit « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Comment est-ce que vous auriez résumé cette pensée-là au verset 9 ? « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Est-ce que vous avez une idée ? J'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un a une idée comment on peut résumer ça ?
J'ai envie de dire, soyez sérieux, quoi.
Oui, oui.
Superficiel et rigoler tout le temps.
Voilà, oui, il y a c'est... Oui, oui.
Soyez
sérieux.
C'est se sentir pécheur déjà.
Oui.
Se sentir désagréable à Dieu.
Oui, oui, oui.
Pécher contre Dieu.
Oui, voilà, il y a ça aussi. Hein. Très bien. Très bien. Donc, on pourrait associer les deux, hein, ce que Laurent a dit et ce que Marcel a dit. Hein. Il y a la notion de péché et puis la notion de ne pas rigoler, de ne pas être content de cette situation, mais de sentir vraiment la gravité de la chose. Et ça devrait plutôt nous pousser aux larmes plutôt qu'à rigoler. Parfois, on peut rigoler. Et donc, j'ai appelé ça, moi, la conscience aiguë du péché. Hein. Avoir la conscience aiguë du péché. On sent ce que le péché représente. Parfois, le péché peut être quelque chose dont on se vante. Hein. On peut se vanter. Ça peut arriver qu'on peut se vanter du péché parce qu'on ne le reconnaît pas vraiment comme un péché. Il peut arriver que consciemment ou inconsciemment, c'est vrai, on s'en vante. On peut prendre même parfois ce qui est péché comme un trait de caractère. Et on peut être fier de ce trait de caractère. Alors que ce faisant, on pêche devant Dieu. Je crois qu'on a un exemple avec la prière du pharisien et du publicain. Vous vous rappelez, quand les deux, il dit que cet homme se tenait debout et puis il priait, et je crois qu'il levait les bras un peu, hein, et il dit « Je te loue, Père, de ceux que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont... » Il était fier de ce qu'il était. Pour lui, c'était le fait qu'il ne fasse pas ces choses, c'était extraordinaire, c'était bien. Dieu ne pouvait que le recevoir. Mais dans son attitude même, dans ce qu'il faisait même, il était en train de pécher contre Dieu. Et l'autre, le publicain, qu'est-ce qu'il disait ? Il a résumé toute sa piété avec un seul mot. Quel mot ? Pécheur. Le texte original dit, « Oh Dieu, sois... » Il dit, le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Le texte original dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Vous voyez, donc c'est comme s'il insistait là-dessus, « Je suis un pécheur. » Il y a un sentiment juste de sa condition devant Dieu. Et je crois que c'est ce que Jacques dit ici. Il dit « Sentez votre misère et soyez dans le deuil. » C'est-à-dire quand on mesure à quel point on a offensé Dieu, on a péché, ce ne devrait pas quelque chose être comme Marcel dit, quelque chose on prend à la rigolade. Quoi. On rigole, on est... Non, c'est sérieux. C'est sérieux. On doit venir devant Dieu en prenant la mesure de ce péché, la mesure de cette offense. Et si quelqu'un, parfois, nous le fait remarquer, on ne peut pas dire hey, « laisse-moi tranquille ». Non, on doit remercier Dieu de ce qu'il nous ouvre les yeux. Et on doit prendre la chose à cœur. C'est-à-dire, le péché, c'est quelque chose qu'il faut prendre à cœur. Et Jacques dit ici « Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Donc ça veut dire ici que je ne dois pas prendre la chose de manière insouciante. Quand la parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes, quand elle pointe tel ou tel péché dans notre vie, Nous devons l'accepter et sentir combien nous sommes misérables à cause de cela. Et nous repentir, demander à Dieu pardon. Ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, la tristesse, quand il parle selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, il dit, produit la mort. Donc être triste de cette situation au point où on ne repart pas avant d'avoir réglé cette affaire. Okay. On prend cela à cœur. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est être soumis à Dieu que de reconnaître le péché quand il le pointe dans notre vie, soit directement à travers sa parole, soit par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Je dois accepter cela, ma femme, parfois c'est peut-être mon enfant, ou un autre frère ou une sœur qui me permet d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Je dois le recevoir comme venant du Seigneur, l'accepter et me repentir. Voilà, on va s'arrêter là, chers frères et sœurs. Donc, ce passage nous encourage à marcher vraiment avec le Seigneur. Je résume ce que Jacques dit ici. Il dit que Dieu veut nous accorder des grâces excellentes à ses enfants parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est une vérité qu'on doit maintenir à notre esprit. On doit apprendre à méditer les caractères de Dieu, ce que Dieu est, parce qu'on voit ici que ce qu'il est dans son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il est de la haine, c'est à partir de cela que l'on est exhorté. C'est l'apôtre Jacques dit ici, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc c'est ce que Dieu est qui gouverne ce que nous devons faire. L'apôtre Paul disait la même chose aux Corinthiens quand il parlait de l'ordre dans l'Église, 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que tout se fasse avec ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre et non de paix et non de désordre. Il disait comme ça, je crois. Donc il dit la raison pour laquelle il faut se conduire de cette manière-là, c'est à cause du caractère de Dieu. Et ici, c'est la même chose que Jacques nous dit ici. Et puis le manque de soumission est un obstacle à la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Si nous refusons d'être soumis à Dieu, nous pouvons être certains que nous allons affronter la résistance de Dieu plus que la manifestation de sa grâce. Mais si nous marchons dans l'obéissance et dans l'humilité, eh bien la Bible dit que nous pouvons faire des progrès spirituels. Parce que Dieu nous accorde la grâce de vivre ce qu'il nous commande de faire. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci pour toutes ces exhortations et que par ton esprit, nous puissions encore méditer ces choses. Mais donne-nous, comme nous le lisons au verset 10 ici, de nous humilier sous ta puissante main. Seigneur, de nous soumettre à ta volonté dans tous les aspects de notre vie. Aide-nous par ta grâce à résister au diable, à nous approcher de toi. Seigneur Dieu, avoir cette conscience pointue du péché, à ne pas prendre le péché à la légère, mais Seigneur, à nous repentir lorsque tu le révèles dans notre vie. Seigneur, donne-nous à ne point aimer le monde, mais à t'aimer toi, à nous tourner continuellement vers toi. Agis en nous par ton esprit. Nous savons que ce que tu nous commandes de faire par ton esprit, tu nous accorde la grâce de pouvoir le vivre, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Donne-nous des cœurs obéissants à ta parole, pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon mardi et à dimanche.